France Culture.
France Culture, le journal est présenté par Marie-Hélène Duvigneau.
Bonjour à tous, il est 9h. Israël va poursuivre de toute sa force la guerre contre l'Iran pour éradiquer le régime, promesse faite hier soir par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Une guerre qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Déclaration ce matin du ministre chinois des Affaires étrangères qui souligne que Pékin entend rester à l'écart de ce conflit. Et puis, les créatrices de contenus féministes confrontées à des vagues de haine, d'insultes et de campagnes coordonnées sur les réseaux sociaux. Constat inquiétant alors que se déroule ce 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. Un peu plus d'une semaine après les premières frappes d'Israël et des États-Unis sur l'Iran, Benjamin Netanyahou jure de poursuivre cette guerre et d'éradiquer le régime iranien. Alors que les bombardements se poursuivent dans tout le Moyen-Orient, le Premier ministre israélien donne le ton d'un conflit qui pourrait durer, Agathe Mahué.
C'est une campagne cruciale pour la survie d'Israël, assure Benjamin Netanyahou, qui dit avoir un plan méthodique, riche en surprises, pour déstabiliser le régime iranien et instaurer le changement. Et c'est bien ce que souhaitent à la fois Israël et les États-Unis, la chute du pouvoir à Téhéran tout en détruisant les capacités balistiques de l'Iran et en l'empêchant de se doter de la bombe atomique. Netanyahou répète ses appels à la reddition, mais l'Iran l'a dit, il n'y aura pas de capitulation malgré la nette domination de l'armée israélienne. Nous avons d'ailleurs obtenu le contrôle quasi total de l'espace aérien au-dessus de Téhéran, se félicite le Premier ministre israélien, qui, dans le même temps, sur le front du Nord, côté libanais, somme à nouveau Beyrouth de désarmer le Hezbollah, la milice chiite libanaise soutien de l'Iran, sans quoi, dit-il, le Liban en paiera le prix.
Agathe Mahué, notre envoyée spéciale à Jérusalem. Le Liban, de nouveau frappé dans la nuit par Israël. Au moins 4 personnes ont été tuées dans un hôtel au cœur de Beyrouth, accusé d'héberger des chefs des gardiens de la révolution iranien. Nouvelle frappe également tôt ce matin dans la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah pro-iranien. Dans le nord et dans le sud d'Israël, des sirènes d'alerte anti-aérienne ont retenti ce matin pour avertir de l'arrivée de missiles iraniens. L'Iran, qui affirme être capable de se battre encore pendant au moins 6 mois au rythme actuel des opérations contre les États-Unis et Israël. Les États-Unis et Israël qui, de leur côté, ont visé 4 dépôts de pétrole à Téhéran et ses environs, selon les autorités iraniennes. Et puis, nouvelles attaques aériennes nocturnes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe. Une station de dessalement d'eau a notamment été endommagée à Bahreïn, tout comme les réservoirs de carburant de l'aéroport de Koweït. Une guerre contre l'Iran que la Chine continue de dénoncer très fermement. C'est le message qui a été adressé ce matin à Pékin lors de la conférence de presse annuelle de la diplomatie chinoise. Mais la Chine n'ira pas au-delà des mots pour défendre son allié iranien. À Pékin, Sébastien Berriot.
Cette guerre au Moyen-Orient n'aurait jamais dû avoir lieu. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, cite un proverbe chinois indiquant que l'usage de la force doit toujours être exercé avec prudence.
Il ne faut pas abuser de la force. Ce n'est pas en frappant fort qu'on a raison. Le monde ne peut pas revenir à la loi de la jungle. Toutes les parties devraient revenir à la table des négociations dès que possible.
Le diplomate chinois ne le dit pas de manière explicite, mais au-delà des condamnations, la Chine n'a aucunement l'intention de s'impliquer davantage. C'est vrai que l'Iran est un allié majeur pour Pékin. Sur le plan militaire, les deux pays réalisent régulièrement des exercices communs, mais aucune alliance militaire n'a été conclue. La Chine ne veut pas prendre le risque d'intervenir dans une guerre qui pourrait durer de longs mois. Pékin reste fidèle à sa tradition de non-intervention militaire en dehors de ses frontières. Une sorte de service minimum pour la diplomatie chinoise qui n'a même pas évoqué ce matin la mission de son médiateur envoyé au Moyen-Orient, mais dont personne n'a pour l'instant entendu parler.
Donald Trump évoque lui un possible envoi futur de troupes au sol en Iran pour contrôler les stocks d'uranium enrichi. Le président américain assistait hier à la cérémonie du retour des dépouilles des 6 premiers soldats américains tués il y a une semaine par une frappe iranienne sur leur base militaire au Koweït. Des morts qui n'atténuent en rien sa détermination à obtenir la reddition totale et sans condition du régime iranien. Et puis, il est trop tôt pour dire si l'incident est lié à la guerre au Moyen-Orient, une explosion a retenti dans la nuit devant l'ambassade américaine à Oslo, sans faire de victimes. Pas d'informations sur son origine. Enfin, concernant les Français bloqués au Moyen-Orient depuis le début de la guerre, le ministre des Transports, Philippe Tabarot, annonce ce matin qu'environ 1000 ont été rapatriés dans 3 vols civils et 3 autres militaires affrétés par le Quai d'Orsay. Un 4e vol militaire est prévu aujourd'hui. Au total, plus de 4300 Français qui se trouvaient au Moyen-Orient lorsque la guerre a éclaté ont pu rentrer en France. France Culture, 9h05, stop aux violences, du travail pour vivre, pas pour survivre, notre corps nous appartient. Des dizaines de milliers de personnes se préparent à manifester aujourd'hui partout en France pour défendre les droits des femmes. Un rapport récent de l'ONU pour l'égalité des sexes montre que plus des 2/3 des femmes journalistes, militantes et défenseurs des droits humains interrogées ont subi des violences en ligne et que plus de 40% disent avoir ensuite été victimes d'attaques dans la vie réelle à cause de ces abus numériques. Des créatrices de contenu féministe qui partagent des analyses, des informations ou des messages engagés auprès de leur communauté se retrouvent ainsi confrontées à des vagues de haine, d'insultes et de campagnes coordonnées sur les réseaux sociaux. Fawzi Trita.
Sur ses réseaux sociaux, Mélissa Amneris produit du contenu pédagogique et journalistique sur le féminisme auprès de ses 200 000 abonnés. Mais plus sa visibilité augmente, plus elle devient la cible des mouvements masculinistes.
On a des raids de signalement. Ils vont me dire qu'on fait des choses qui se rapportent à la pornographie. À cause de signalements, où les plateformes, en fait, comme Meta ou TikTok, quand elles reçoivent autant d'un coup de signalement, bah, ça se banne direct en prévention. Et du coup, après, les recours peuvent être très très longs. Moi, j'ai déjà eu au moins un avertissement, par exemple pour nudité, pour acte sexuel, alors qu'on fait un contenu journalistique sur le féminisme, une chronique, un décryptage sur un mot, un phénomène. On se rapproche souvent de ces choses-là, de la misogynie, en fait, l'hypersexualisation se retrouve même dans leur méthode de silenciation.
À cela s'ajoute le fonctionnement des algorithmes des plateformes qui rendent les contenus politiques moins visibles et par ricochet les contenus féministes. La modération peine également à faire la différence entre un contenu qui dénonce par exemple les violences sexistes et sexuelles, et un contenu qui en ferait l'apologie. C'est pour cela que beaucoup de militantes décident d'occuper d'autres espaces, comme l'explique Hélène Breda, qui est maître de conférences et autrice du livre « Les féminismes à l'ère d'Internet ».
Écrire des livres, de faire des podcasts, de retrouver des formes d'engagement. Je pense au mouvement des colleuses, par exemple, tous les collages qui peuvent être faits dans les rues de nombreuses villes de France. Ça a fleuri il y a quelques années.
Différentes actions qui ne les empêchent pas, au contraire, de les relayer sur les réseaux sociaux, parfois avec beaucoup de viralité, comme les fameux collages féministes.
Et à une semaine des municipales, une centaine d'organisations, syndicats et associations appellent à se mobiliser lors des manifestations de ce 8 mars pour les droits des femmes, mais aussi contre l'extrême droite. Des municipales qui mettent en lumière la sous-représentation dans la vie politique des personnes en situation de handicap. Seuls 0,02% des élus municipaux le sont, contre 16% de la population. Alors existe-t-il un plafond de verre et comment expliquer les difficultés que peuvent rencontrer les personnes handicapées siégeant dans les conseils municipaux ? Élément de réponse avec William Oncure.
Odile Morin est conseillère municipale à Toulouse. Mais cette année, elle a décidé de ne pas se représenter.
Donc depuis mon élection en juillet 2020, je subis une pression qui est devenue intolérable et qui m'a amené à plusieurs arrêts pour burn-out en 2024.
Dans une vidéo, cette militante autiste qui lutte pour le droit des personnes en situation de handicap dénonce des conditions difficiles pour exercer son mandat, faute d'aménagement raisonnable.
Ce qui pourrait me conduire à démissionner de mon mandat d'élu municipal et métropolitaine à Toulouse.
Odile Morin est aussi atteinte d'une maladie génétique rare et elle a dû financer elle-même une assistance humaine avec ses indemnités d'élu. Elle dénonce une discrimination que confirme Cyril Desjeux, sociologue spécialisé dans l'inclusion. Selon lui, il y a un double plafond de verre pour celles et ceux qui veulent s'engager.
Si on prend des exemples factuels sur la société, par notamment des inégalités d'accès à la scolarité et au travail, qui derrière va produire des inégalités d'accès à la construction de réseaux et à la possibilité de s'engager dans des partis politiques, mais c'est également des inégalités dans la possibilité de pouvoir bénéficier des soutiens financiers nécessaires à la compensation de leur handicap, notamment en termes d'aide humaine.
Un soutien existe pour les élus handicapés, comme le propose APF France Handicap. Cet organisme les accompagne dans leurs demandes d'aide auprès de leur mairie. Selon l'Observatoire du validisme politique, on compte près d'une centaine d'élus locaux en situation de handicap, mais ce chiffre peut être sous-estimé.
Le temps aujourd'hui pour terminer, humide à l'ouest et entre le Midi-Pyrénées et le sud de l'Auvergne, encore très instable autour de la Méditerranée, ensoleillé sur le reste du pays. Les températures au meilleur de la journée, 14 à 18 degrés en général, 19-20 du nord-est à la région parisienne, pas plus de 11 à 12 sur le littoral de la mer du Nord.